Première partie, les malheurs viennent du lion. Le cardinal de Périgord pense.
J'aurais dû être pape. Comment ne pas penser et repenser que par trois fois j'ai tenu la tiare entre mes mains, trois fois. Tant pour Benoît XII que pour Clément VI ou que pour notre actuel pontife, c'est moi, en fin de lutte, qui ai décidé de la tête sur laquelle la tiare serait posée. Mon ami Pétrarque m'appelle le faiseur de pape. Pas si bon faiseur que cela, puisque ce ne put jamais être sur la mienne. Enfin, la volonté de Dieu. Ah, l'étrange chose qu'un conclave. Je crois bien que je suis le seul des cardinaux vivants à en avoir vu trois. Mais peut-être en verrai-je un quatrième, si notre Innocent VI est aussi malade qu'il se plaint de l'être. Quels sont ces toits là-bas? Oui, je reconnais, c'est l'abbaye de Chancelade, dans le vallon de la Bouronne. La première fois, certes, j'étais trop jeune, 33 ans, l'âge du Christ. Et cela se murmurait en Avignon. Dès qu'on sut que Jean XXII, Seigneur, gardait son âme dans votre sainte lumière, il fut mon bienfaiteur, ne se relèverait pas. Mais les cardinaux n'allaient pas élire le plus jeuneau d'entre leurs frères, et c'était raisonnable, je le confesse volontiers. Il faut dans cette charge l'expérience que j'ai acquise depuis. Tout de même, j'en possédais assez déjà pour ne point m'enfler la tête de vaines illusions. En faisant suffisamment chuchoter aux Italiens que jamais, jamais les cardinaux français ne voteraient pour Jacques Fournier, j'ai réussi à précipiter leur vote sur lui et à le faire élire à l'unanimité. « Vous avez élu un âne, c'est le remerciement qu'il nous a crié sitôt son nom proclamé. Il connaissait ses insuffisances. Non, pas un âne. Pas un lion non plus, un bon général d'ordre, qui avait assez bien su se faire obéir à la tête des Chartreux, mais diriger l'entière chrétienté. Trop minutieux, trop tatillon, trop inquisiteur. Ces réformations, finalement, ont fait plus de mal que de bien. Seulement, avec lui, on était absolument certain que le Saint-Siège ne retournerait pas à Rome. Sur ce point-là, un mur, un roc. Et c'était l'essentiel. La seconde fois, au conclave de 1342, j'aurais eu toutes mes chances si Philippe de Valois n'avait pas voulu faire élire son chancelier, l'archevêque de Rouen. Mais nous, les Périgords, nous avons toujours été obéissants à la couronne de France. Et puis, comment aurais-je pu continuer d'être le chef du parti français si j'avais prétendu m'opposer au roi? D'ailleurs, Pierre Roger a été un grand pape, le meilleur, à coup sûr, de ceux que j'ai servis. Il suffit de voir ce qu'est devenu Avignon avec lui, le palais qu'il a fait construire, et ce grand afflux de lettrés, de savants et d'artistes. Et puis, il a réussi à acheter Avignon. Cette négociation-là, c'est moi qui l'ai faite, avec la reine de Naples. Je peux bien dire que c'est mon œuvre. 80 000 florins, ce n'était rien. Une aumône. La reine Jeanne avait moins besoin d'argent que d'indulgence pour tous ses mariages successifs, sans parler de ses amants. Sûrement, mon ami, à mes chevaux de somme des harnais neufs, ma litière manque de moelleux. C'est toujours ainsi quand on prend le départ, toujours ainsi. Dès lors, le vicaire de Dieu a cessé d'être comme un locataire, assis du bout des fesses sur un trône incertain. Et la cour que nous avons eue, qui donnait l'exemple au monde, tous les rois s'y pressaient. Pour être pape, il ne suffit pas d'être prêtre. Il faut aussi savoir être prince. Clément VI fut un grand politique. Il entendait volontiers mes conseils. Ah, la Ligue navale, qui groupait les Latins d'Orient, le roi de Chypre, les Vénitiens, les Hospitaliers. Nous avons nettoyé l'archipel de Grèce des barbaresques qui l'infestaient. Et nous allions faire plus. Et puis, il y eut cette absurde guerre entre les rois français et anglais, dont je me demande si elle finira jamais, et qui nous a empêchés de poursuivre notre projet, ramener l'église d'Orient dans le giron de la Romaine. Et puis, il y eut la peste, et puis Clément est mort. La troisième fois, au conclave d'il y a 4 ans, c'est ma naissance qui m'a fait empêchement. J'étais trop grand seigneur, paraît-il, et nous venions d'en avoir un. Moi, Élie de Talleyrand, qu'on appelle le cardinal de Périgord, pensez donc, c'eût été une insulte aux pauvres que de me choisir. Il y a des moments où l'Église est saisie d'une soudaine fureur d'humilité et de petitesse, ce qui ne lui vaut jamais rien. Dépouillons-nous de nos ornements, cachons nos chasubles, vendons nos ciboires d'or et offrons le corps du Christ dans une écuelle de 2 deniers, vêtons-nous comme des manants, et bien crasseux s'il se peut, de sorte que nous ne sommes plus respectés de personne. Et d'abord, point des manants. Dame, si nous nous faisons pareil à eux, pourquoi nous honoreraient-ils? Et nous en arrivons à ne plus nous respecter nous-mêmes. Les acharnés d'humilité, lorsque vous leur opposez cela, vous mettent le nez dans l'évangile, comme s'ils étaient seuls à le connaître. Et ils insistent sur la crèche, entre le bœuf et l'âne, et ils insistent sur l'échoppe du charpentier. Faites-vous semblable à notre Seigneur Jésus. Mais notre Seigneur, où est-il en ce moment, mes petits clercs vaniteux? N'est-il pas à la droite du Père et confondu en lui dans sa toute-puissance? N'est-il pas le Christ en majesté, trônant dans la lumière des astres et la musique des cieux? N'est-il pas le roi du monde? Entouré des légions de séraphins et de bienheureux, qu'est-ce donc qui vous autorise à décréter laquelle de ces images vous devez, à travers votre personne, offrir aux fidèles, celle de sa brève existence terrestre ou celle de son éternité triomphante? Tiens, si je passe par quelque diocèse où je vois l'évêque un peu trop porté à rabaisser Dieu en épousant les idées nouvelles, voilà ce que je prêcherai. Marcher en supportant 20 livres d'or tissés, et la mitre, et la crosse, c'était pas plaisant tous les jours. Surtout quand on le fait depuis plus de 30 années, mais c'est nécessité. On n'attire pas les âmes avec du vinaigre. Quand un pouilleux dit à d'autres pouilleux « mes frères », cela ne leur produit pas grand effet. Si c'est un roi qui le leur dit, là c'est différent. Procurer aux gens un peu d'estime d'eux-mêmes. Voilà bien la première charité qu'ignore nos fratricelles et autres girovagues. Justement parce que les gens sont pauvres et souffrants, et pécheurs et misérables, il faut leur donner quelques raisons d'espérer en l'au-delà. Eh oui, avec de l'encens, des dorures, des musiques. L'Église doit offrir aux fidèles une vision du royaume céleste. Et tout prêtre, à commencer par le pape et ses cardinaux, refléter un peu l'image du Pantocrator.